11h passées de quelques instants, vous comprenez sans doute que vous êtes ou vous atterrissez, même d'ailleurs, dans l'émission Club de la Presse. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour cette émission, ce troisième numéro même d'ailleurs, de cette émission Club de la Presse de ce mercredi. Michel Kokouvitogbe Tomega est à la mise en onde alors de cette émission. Géraud Akouta est à la mise en ligne. Je suis au micro votre serviteur Pascal Lossou. Club de la Presse est aussi avec nos radios partenaires, Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie au grand nord du pays. Nous sommes au Dapaon. Nous n'allons pas oublier nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est avec des confrères journalistes en studio avec moi pour débattre de l'actualité et aussi des invités alors déjà sur ce plateau avec moi, confrères journalistes aussi. Alors, confrères journalistes, Abel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices de Canal FM.
J'espère que tu vas bien.
Oh, grâce à Dieu.
Dieu merci. Estelle Koudzonou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour au plateau, bonjour aux techniciens, je n'oublie pas les auditeurs et auditrices de Canal FM.
Alors je parlais d'invité, je ne sais pas si je dois parler d'un confrère journaliste ou plutôt un invité. Basile Mignaki, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à nos fidèles auditeurs, auditrices de la radio Canal FM. Ça fait un bail. Vous savez que lorsque j'arrive ici, ça, c'est qu'il y a un événement en vue.
Tout à fait. Donc, et l'événement en vue, on le sait très bien.
Tout à fait.
C'est bien le marché alors du bien-être et de la santé au Togo Mabès.
Tout à fait.
Et j'espère déjà que c'est dans le mois de septembre que les hostilités vont commencer. Le lancement, je pense bien que c'est le 6 septembre. Alors comment ça va pour... maintenant d'abord, pourquoi un tel marché?
Oui, parce que vous savez, Mabès vise à informer les populations, surtout à soutenir les agents de santé dans le diagnostic et la prise en charge de certaines pathologies que nous connaissons, les pathologies chroniques qu'on peut éviter. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que Mabès s'inscrit dans cette dynamique-là. Et périodiquement, nous le faisons. Il y a quelques années, à cause du Covid-19, on a mis l'événement entre parenthèses. Et aujourd'hui, on renoue. On avait lancé dans un premier temps, et la mobilisation n'était pas au rendez-vous. Et pour cette fois-ci, on peut aller au marché. Au marché, comme vous le dites si bien, c'est du 13 au 17 septembre du mois prochain septembre, et qu'en prévision de ça, il y a le lancement, c'est inédit aussi, qu'on fera dans un marché, au marché d'Agoué à Sieyé.
Ah bon?
Oui, oui, on fera ce lancement-là. Vous savez, comme nous le disons, le marché... Et c'est une rencontre pour monsieur tout le monde, madame tout le monde.
Oui, tout à fait.
Où on vient, on fait des rencontres, on achète, c'est là sans santé, hein, ce qu'on doit ingurgiter, prendre des rendez-vous, visiter. Donc c'est aussi une stratégie de mobilisation aussi, parce qu'il y a une foule qui est là, qui vient, la foule qui vient d'ailleurs, et puis c'est une rencontre, donc... nous voulons profiter de ce rendez-vous pour lancer à nos populations ce rendez-vous très important pour nos populations. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui lit. Donc ce rendez-vous nous permet de toucher à cette population à qui on n'a pas accès. Donc marché du bien-être et de la santé, on parle le vernaculaire. C'est l'hôpital vers nos populations. Où il y a les services étatiques qui sont là, comme le CNTS, comme le service de maladies non transmissibles, comme le service de cancérologie, comme le service de la santé, DPS du Golfe, qui sera là sur le terrain pour prêter des services. Donc, aujourd'hui, pour cette année, et la nouveauté aussi, c'est qu'on a la cible jeune qu'on veut. Et qu'on veut mettre en exergue. Donc, ils sont là, les jeunes là sont là. Sans pour autant oublier les adultes, les personnes âgées qui aussi font partie de ce rendez-vous-là.
Basile, pour ce rendez-vous, c'est vrai, vous l'avez dit maintenant, qu'il y a des jeunes qui sont avec vous, surtout que pour cette année particulièrement, la cible, c'est les jeunes, et c'est pour cela même d'ailleurs que nous avons dans ce studio ou sur ce plateau avec nous deux jeunes.
Il y a Sodom et qui est délégué chargé alors du programme jeunesse de MABES, et aussi Samira Boukari, chargée média du programme jeunesse du MABES. Et Sodom, bonjour.
Bonjour, monsieur Pascal.
Comment vous allez?
Bonjour à tous les auditeurs, je vais super bien.
D'accord. Samira, bonjour.
Bonjour, monsieur Pascal. Bonjour, chers auditeurs et auditrices.
Alors, Sodom, pourquoi vous, en tant que jeune, vous avez décidé alors de s'engager sur ce marché?
Moi, je répondrai directement. C'est au vu de mes expériences personnelles, mon entourage, ce que moi-même j'ai vécu en matière de santé, et puis mes très chers amis jeunes aussi comme moi. Donc c'est dans ce sens-là, au vu de tout ça, là, après avoir expérimenté tout ça et calculé cette donnée, je me suis dit, serait bien que je m'engage aux côtés du MABES pour apporter un plus à mes pairs en matière de santé.
Samira, concrètement, qu'est-ce que vous allez apporter en tant que jeune alors sur ce marché?
En tant que jeune déjà, j'invite tous les jeunes à nous rejoindre sur le terrain de Tochi. Nous allons créer un cadre agréable et attractif pour tous les jeunes. Nous allons parler, nous allons avoir des séances de discussion entre nous pour pouvoir développer, pour pouvoir partager des moments de divertissement, d'échange, qui sera vraiment une expérience.
Des partages alors d'expérience. Voilà. Concrètement, qu'est-ce qui sera fait?
Pour aller droit au but, il y aura des prestations d'artistes, des projections de films pour illustrer tout ce dont on parlera lors des séances de partage de connaissances et d'acquisition de connaissances. Voilà. Il y aura aussi des dégustations de jus naturels, de plats alimentaires à haut impact sur la santé. On parlera aussi des jeux vidéo. Il y aura même sur place un kit de réalité virtuelle en matière de santé pour aider. Voilà. Et donc, ce sont ces genres de trucs qu'il y aura. Donc, on va bien s'amuser. Mais en même temps, on va apprendre aussi.
Tout sera fait pour attirer surtout la couche jeune alors à cette rencontre. Évidemment. Alors, Basile, finalement, les perspectives, d'abord, ou du moins, la particularité surtout, j'allais dire, de cette rencontre, ce serait quoi?
La particularité, d'abord, c'est la couche jeune que nous invitons. On a l'espace jeune pour cette fois-ci. Et on a aussi, je vous l'ai dit tantôt, l'hôpital qui va vers nos populations. Parce que pour cette fois-ci, c'est le CHU Campus qui se déplacera pour faire la consultation, la prise en charge, conseil, et avec d'autres structures comme l'ONG Visa, même la direction professorale du Golfe aussi, qui sera là. Aussi, on fera aussi le dépistage du code de l'autorisme. On aura un stand bien aménagé où, parce que c'est la communauté. Et c'est ça qui nous fait amener le marché vers le marché du bien-être, je pense. Parce que je ne voulais pas qu'on fasse la confiance marché, foire. Nous ne voulons pas la foire. Non, c'est le marché. Donc, c'est de rester dans la communauté et de travailler avec ceux-là qui sont nécessités. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y aura aussi cette particularité, il y aura le corps des sapeurs-pompiers aussi qui sera là. Parce que santé, éducation, c'est au fait, c'est la prévention. Si on fait les consultations, comme je l'ai dit en amont, c'est pour aider les agents de la santé à détecter très tôt certaines pathologies. Parce que
les gens arrivent à 90-15%, les gens arrivent dans les formations sanitaires à un stade où le médecin ne pourra rien faire. Et c'est ça qui fait que nos formations sanitaires sont bondées et nous avons des crises dans des familles, nous avons des pathologies qu'on traîne, qu'on pourrait éviter. Et donc c'est par l'information, l'éducation et c'est par cette proximité de ces actions que nous faisons qu'on pourrait arriver à un temps soit peu à réduire la fréquentation dans nos formations sanitaires. Et que aussi la charge aujourd'hui, Dieu merci que l'État fait un effort en ce qui concerne INAM, l'accès à nos prestations est moins. Mais nous devons faire en telle enceinte que ça ne se court pas. C'est-à-dire que qu'on mette en avance, et c'est la première étape même à franchir en matière de santé, c'est la prévention. Donc c'est ce que nous pourrons dire en substance concernant cette nouveauté, cette particularité dont vous faites allusion.
Voilà. Et surtout, si vous avez un mot pour lancer un appel à vos pères jeunes, qu'est-ce que vous allez leur dire?
Je vais commencer d'abord par les parents, si vous permettez. Je dirais d'abord aux parents que ce serait très intéressant aussi d'amener nos amis, d'amener les enfants sur place, que ce soit les jeunes de moins de 18 ans. Ou plus, voilà, qu'ils soient là et ensemble on pourra partager un bon moment de convivialité, mais en même temps joindre l'utile à l'agréable. Donc je dirais à mes pères de venir pour qu'on puisse s'échanger, partager des expériences. Ils auront à nous dire et nous aurons aussi à leur dire.
Partager voilà, d'expérience. Samira, un mot également à vos pères jeunes,
oui,
et surtout jeunes filles.
Les jeunes filles. Et surtout aux jeunes, je lance un cri d'engagement en matière de santé.
Oui.
Pour les jeunes, quand on parle de santé, ils ont directement des idées sur les maladies et la mort. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Alors j'aimerais qu'ils viennent, que tous ensemble, tous, on crée un moment de partage, de convivialité. Et qu'on puisse ensemble partir avec des expériences et acquérir plus.
Ok, Basile, les jeunes ont appelé leur père et vous maintenant.
Oui, c'est voilà, vous savez, elle l'a si bien dit, parce que lorsqu'on parle de santé, on parle de maladie, non. On peut être en bonne santé et aller à l'hôpital pour préserver sa santé.
Tout à fait.
Et c'est ce que on doit inculquer à nos enfants, à nos jeunes, à nos petits frères. Mais la santé s'entretient. On doit l'entretenir. C'est comme une flamme qu'on protège pour qu'elle ne s'éteigne pas. Donc, c'est un cri d'alarme qu'elle vient de lancer. Et que moi aussi, je dirais que à l'endroit des autorités, aujourd'hui, le ministre de notre ministre de tutelle, le professeur Ayouadan, nous a prêté une oreille attentive dans le plaidoyer que nous sommes en train de faire. Je pense que nous allons continuer dans ce sens et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Et surtout, l'engagement de la ministre du Développement à la base qui s'est levée et qui a pris ce problème à bras le corps contre l'addiction des jeunes. Et donc, dans ce mabès, c'est de faire tout et tout pour que les jeunes évitent les tout premiers contacts avec les stupéfiants. C'est ça aussi. Il faut éviter à tout prix et protéger cette jeunesse qui est la relève de demain. Donc, c'est un cri d'alarme que nous lançons vraiment à nos autorités de nous écouter que le MABES doit être soutenu. Aujourd'hui, nous avons de plomb dans l'aile. Donc, sincèrement, par vos micros, les jeunes nous écoutent, ils nous observent, ils nous attendent. Ils ont pris des engagements et nous devons les accompagner. Et c'est ce que je pourrais dire.
Merci beaucoup, Basile Mignacqué, d'être passé dans cette émission.
Merci
Sotom d'être passé aussi dans cette émission. Pascal. Je rappelle que vous êtes le délégué chargé alors du programme jeunesse du MABES. Samira Boukari, merci.
Merci à vous aussi.
Vous êtes chargé média du programme jeunesse alors du MABES. Alors, Basile Mignacqué, là, on sait très bien que vous êtes le directeur directeur général alors du journal Santé et Éducation. Nous allons parler alors de la santé. Restons toujours dans le domaine de la santé. Et cette fois-ci, c'est avec Abel. Abel, rebonjour.
Bonjour Pascal.
Alors, c'est vrai qu'à la une alors de votre journal, ce matin Santé et Éducation, vous écrivez « Pissenlit, grand nettoyeur du foie ». Et qu'est-ce que c'est et comment le pissenlit arrive à nettoyer le foie?
D'abord, cette parution, c'est une parution spécialement phytothérapie, donc consacrée uniquement aux plantes, aux épices, aux feuilles, en fait, tout ce qui concerne la plante.
Oui.
Donc, vous savez qu'en Afrique, selon l'OMS, plus de 80% des Africains se soignent avec les plantes. Mais nous aussi, nous faisons un focus sur ces différentes plantes que nous avons sur nos marchés, que nous avons dans nos jardins. Donc, cette parution regroupe un peu ces différentes plantes, ces différentes épices qui peuvent aider à soulager, à prévenir, à traiter les ennuis de santé. Et à la une de notre parution, ce matin, nous mettons pissenlit. Comme le dit souvent en éveil, Angoto.
Voilà.
Donc, Angoto, en éveil, le pissenlit, selon des études très prouvées, il peut aider à soigner, il peut aider à prévenir les maladies du foie. Vous savez, quand on a un foie malade, notre organisme est en danger. Donc, quand par exemple, vous avez certaines manifestations, par exemple des trous de mémoire fréquents, vous avez une perte ou bien une prise de poids soudaine, brutale, vous avez une sensation de pesanteur dans le ventre, dans l'estomac, vous allez au WC, vous constatez que vos selles sont très noires et puis vous avez des yeux jaunes. Attention, votre foie est en train d'avoir un souci. Donc le pissenlit est un allié qui peut aider à contribuer en fait à la régénération du foie, à contribuer à préserver ce foie, non pas seulement le foie mais aussi tout le système urinaire. Donc le pissenlit, les feuilles du pissenlit permettent d'évacuer les toxines du foie. Est-ce qu'on voit? Donc, c'est une plante dépurative, c'est une plante diurétique. Donc, des composés de cette plante-là nous permettent, c'est-à-dire, elles ont un effet hépatoprotecteur. Ça veut dire qu'ils contribuent à la santé du foie.
Alors, à part le pissenlit, vous nous parlez alors du clou de girofle et vous dites alors que cela renforce l'érection chez l'homme.
Exactement. À tous les hommes, sur tous les couples qui ont des problèmes d'érection. Donc, il y a une recette déjà à la une du journal qu'on peut essayer de faire à la maison pour booster cette érection, pour renforcer cette érection chez l'homme. Donc, le clou de girofle, c'est une épice très puissante et une recette est donnée dans l'article. Mais attention à la posologie. Donc, essayez de voir la recette et de l'appliquer. Ça peut aider beaucoup.
Alors, vous ne vous intéressez pas qu'aux hommes. Il y a aussi les femmes. Et vous dites, thé, cannelle, contrôler les règles abondantes.
Oui, les menstrues chez la femme, c'est quelque chose qui est naturel. Mais quand ça devient abondant, attention, ça peut être signe d'une maladie. Est-ce qu'on voit? Donc, toutes ces infusions, toutes ces tisanes, ces thés qu'on propose aux populations, surtout aux femmes qui subissent déjà en fait ce mal, c'est pour les aider à ne plus avoir ce genre de problème. Donc, la cannelle aussi, c'est une épice très très intéressante qui peut aider les femmes qui sont dans cette situation. Donc, la recette est dans l'article. L'essentiel, c'est de faire la recette. C'est une recette fait maison. Si on le fait, on peut avoir des résultats. Mais ce que nous recommandons, si une femme est dans cette situation, avec des règles abondantes, aller à l'hôpital pour une consultation gynécologique.
Abel, vous nous proposez un autre thé, et cette fois-ci c'est thé curcuma, alors citron, et vous dites que cela peut réduire le stress et l'anxiété.
Oui. J'espère que chacun des confrères aussi sur ce plateau a déjà subi de stress, d'anxiété. Tout le monde déjà subi ces épisodes. Vous savez, c'est gênant. Être stressé, être anxieux, c'est vraiment gênant. Donc, ça impacte sur la qualité de vie, ça impacte sur notre travail. Donc, voilà encore un autre thé qu'on propose, population. pour à tous ces gens qui souffrent d'anxiété, qui gèrent mal leur stress, ce thé peut les aider à avoir, en fait, bon, le stress agit également sur le sommeil. Donc, quand on est trop stressé, c'est pas bon pour l'organisme, c'est pas bon pour la psychologie. Donc, ce thé peut aider également à avoir un équilibre mental, à protéger le cerveau et être en forme.
Est-ce qu'on peut lire encore sur votre journal ou à la une de votre journal de ce matin, vous dites encore du NIM, traiter l'hémorroïde et arthrose.
Oui, le NIM, on l'appelle souvent l'arbre, ou bien l'arbre du village. Hein. Donc c'est une plante, c'est un arbre très très amer.
Oui.
Tout le monde en a pris dans son enfance. C'est pas une plante à délaisser. Mais nous faisons juste un focus sur l'écorce. L'écorce est très, très vertueuse. Donc, ceux qui souffrent d'hémorroïdes, l'infusion, la décoction de l'écorce peut les aider à soulager les symptômes d'hémorroïdes. Donc, ça permet d'avoir, en fait, un estomac très léger. Et ça permet, en fait, d'avoir un confort gastrique léger. Donc, même jusqu'à même à l'arthrose, ceux qui ont des douleurs au niveau des articulations. Donc, l'écorce de Nîmes peut aider, peut soulager cette douleur. La recette est dans l'article. Et surtout, veillons à la posologie.
Veillons à la posologie.
Et si on souffre de ces maladies, si ces maladies ont été diagnostiquées, on invite les gens à consulter.
Alors, toutes ces informations, c'est à retrouver alors dans votre journal, de votre parution de ce matin, le numéro 133 du journal Santé Éducation. Et c'est à quel prix où est-ce qu'on peut le retrouver?
La version papier à 1000 francs et la version numérique se trouve sur notre site www.santé-éducation.tg au prix de 500 francs.
Merci beaucoup, Abel, d'être passé dans cette émission. Alors, nous allons convier nos auditeurs, nos auditrices à aller s'acheter alors le journal Santé Éducation pour avoir toutes ces informations. Émission Club de la Presse, nous revenons au plateau. Abbas Issaka, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
J'espère que vous allez bien.
On rend grâce.
Tchabouré, bonjour.
Oui,
On dirait le plus mince alors des journalistes.
Oui, oui, je suis le plus mince. Les confrères ici ne vont pas me démentir, n'est-ce pas?
Non, mais ça c'est clair.
Ou bien Fabrice. Ok, bonjour Pascal, bonjour aux confrères ici présents, bonjour à la consoeur, la seule d'ailleurs ici, et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les outils de Canal FM.
Fabrice Patom Petizi, bonjour.
Bonjour à toi et bonjour aux confrères ici présents, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bonjour au peuple gabonais.
C'est important. Rebonjour Estelle.
Rebonjour Pascal, rebonjour et bienvenue aux confrères en studio.
Alors nous allons nous intéresser d'abord à ce sujet de la prévention routière ou de la sécurité routière. C'est vrai, on en parle et on continue alors d'en parler, mais celui qui nous amène à encore en parler ce matin, c'est le Mania Libéré. Mania Libéré qui titre à ça une casque obligatoire pour toute personne à moto. Et la police met en garde les spéculateurs alors sur le prix alors du casque. Abbas, aujourd'hui, je pense que oui, il y a cette campagne qui se fait et beaucoup de gens, il y a beaucoup de motos même d'ailleurs qui sont arrêtées et tout. Mais vous vous intéressez aux casques et surtout des gens qui sont là pour faire la spéculation sur les prix alors des casques.
Oui, depuis que cette opération feu tricolore qui se poursuit avec opération port de casque obligatoire a été instaurée. Surtout la semaine passée, on a vu qu'il y a des spéculateurs. Des casques qui se vendaient à 3 500, 4 000, aujourd'hui sont allés au double. On les vend à 8 000, d'autres à 12 000, voire même 15 000. Donc, n'admettez pas sans savoir que ce n'est pas tout le monde qui aime prendre le casque de quelqu'un qui est déjà descendu sur la moto parce que les gens ont peur de certaines maladies au niveau de la tête. Donc, chacun veut avoir son casque. Puisque lorsqu'on a la moto et que le conducteur a le casque et que vous, vous n'avez pas de casque, c'est vous qu'on punit. On vous fait, on vous bloque là-bas, vous arrêtez, on vous fait perdre le temps. Et tout, on vous dit toute la journée, vous pouvez rester là-bas. Si vous avez des affaires à faire quelque part, vous allez perdre tout ce temps-là là-bas à attendre. Et après, on vous sensibilise. Et lorsque vous quittez, vous êtes obligé d'aller chercher, acheter un casque. Aujourd'hui, le problème est devenu un peu compliqué par rapport à la rentrée que les parents d'élèves sont en train de préparer. Faut-il se sacrifier pour acheter le casque ou faut-il faire rentrer ses enfants? Et quand vous prenez cette situation aujourd'hui, la rentrée scolaire, hélas, des enfants qui vont loin et qui empruntent surtout les motos des immigrants, et vous, si vous en avez jusqu'à deux ou trois, vous devez en acheter des casques pour ces trois-là, parce que c'est des motos qui l'amènent à l'école. Et aujourd'hui, quand les spéculateurs ont commencé par faire ceci, il y a la police qui met en garde contre ces spéculateurs de casques, et de ne pas profiter de la situation pour aussi nuire à la population. Donc aujourd'hui, c'est un problème très sérieux. Je pense que si cette position et cette décision, cette mesure de la police et du ministère du Commerce également sont suivies, il n'y aurait plus de tricherie et de spéculation. Il faudrait qu'on ne peut pas aujourd'hui parler, mais il faut être là sur le terrain, constater là où on vend les casques, comment les choses se passent et sanctionner ceux-là qui sont en train de profiter de la situation pour s'enrichir.
Tchaboré, oui, c'est un problème que nous avons aujourd'hui. Enfin, c'est un constat depuis que cette campagne, hein, le port obligatoire alors de casque a commencé. On a vu quand même qu'il y a assez de spéculation alors sur le prix alors de casque. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité, hein, pour les autorités de réguler surtout ce domaine ou ce commerce alors sur le terrain?
Oui, moi je pense qu'il faut faire une distinction parce que au-delà de tout, il faut d'abord voir la mesure en elle-même. Est-ce que c'était nécessaire de prendre une telle mesure? Moi, je dis oui. Parce que par rapport à ce qui se passe sur nos routes et les accidents enregistrés souvent, je pense que l'autorité était obligée de prendre une telle mesure pour protéger la population, protéger les usagers de la route et protéger même les propriétaires d'engins. Je pense que c'était important de prendre une telle mesure. Maintenant, là où ça cloche, je pense que on devait prendre d'autres mesures en amont. Parce que on devrait quand même se rendre compte, à l'évidence, qu'en prenant une telle mesure, il devrait y avoir des spéculations. Parce que ça a été toujours ainsi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je pense qu'un travail en amont devait être fait avec le ministère du Commerce et d'autres ministères qui sont en lien avec une telle mesure pour pouvoir faire en sorte que, s'il y a possibilité, subventionner ne serait-ce que l'apport des casques dans la population pour pouvoir permettre à la population d'avoir accès. Parce que n'oubliez pas que la situation économique aujourd'hui est très dure pour tout le monde. Ça, il faut se le dire. Donc, il faudrait quand même que les populations comprennent qu'une telle mesure, lorsqu'elle a été prise, c'est pour la protéger. Et il faut soutenir une telle mesure. C'est très important. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, on peut dire que le verre déjà plein, il faut le boire. Parce que la mesure a été prise, le ministère a sorti un communiqué. C'est vrai que c'est trop tard, mais je pense qu'il faut travailler. Et ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas encore tard pour que l'État puisse faire une subvention par rapport au commerce de ces casques-là pour permettre aux citoyens qui n'ont pas la mesure d'acheter de pouvoir acquérir. C'est aussi ça le problème. Comme ça, on va résoudre ce problème de tension qui existe aujourd'hui avec ce qu'on a vu à Cara où les gens estiment qu'ils n'ont rien à manger et qu'il faut aller et laisser ce qu'il faut manger pour aller acheter du casque. Or, en réalité, c'est pour leur propre bien. C'est pour leur propre bien. Donc, moi, je pense qu'on peut résoudre le problème de cette manière. Ça dit que l'État subventionne. C'est vrai, le communiqué est sorti. L'État peut subventionner le commerce des casques et diminuer. Comme ça, le prix va chuter et ça va permettre à tout le monde d'acquérir ces casques. Voilà l'idée que moi, je voulais enlever. Là où je voulais enlever.
Fabrice, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, comme si que justement si cette mesure prise par le gouvernement ou l'autorité, le citoyen comprend au fin fond alors que cette mesure, comme si cette mesure lui fera alors du bien.
Non, pour moi, le citoyen n'a vraiment pas compris, en tout cas certains citoyens, parce que quand vous voyez comment ça se passe, vous vous rendez compte qu'en fait, les gens portent le casque juste pour éviter que la police les interpelle. Mm. Alors qu'en réalité, le casque, ce n'est pas pour le policier, le casque est destiné à vous protéger en cas d'accident. Donc, qu'est-ce qui se passe la nuit ou alors dans des endroits où il n'y a pas de policier? Les gens ont le casque sur le moto, mais ils attendent juste à percevoir. Et puis, ils se donnent même des mots de passe, les conducteurs de taxi-moto. Ah, ils sont sortis, hein, ils sont sortis. Hein, et puis, bon, on sait que tout le monde met le casque. Donc, ben, quand ils ne sont pas là, on l'enlève. Donc, ça voudrait dire que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup n'ont pas compris pourquoi on demande aux gens de porter le casque. Maintenant, le prix du casque, c'est vrai. Est-ce qu'il y a pénurie de casques en ce moment? Non, il n'y en a pas. Donc, en réalité, le prix ne devrait pas flamber. Peut-être qu'il faut aller au niveau des sociétés qui vendent les motos, peut-être pour les acheter à un prix raisonnable. Mais en réalité, un vrai casque, ça coûte cher. Pourquoi je parle de vrai casque? Parce qu'il y a une chose. Une chose est de mettre le casque. Une autre est que ce casque vraiment se protège. Parce que ce que moi j'ai vu là, moi mon papa avait une Vespa dans les années 80. Il avait deux casques. Vous prenez un casque, vous le jetez sur le goudron, il tipe, il ressaute, vous le prenez intact. Mais ce que moi je vois comme casque aujourd'hui, moi j'ai vu des gens, le casque est juste tombé de la moto, il s'est éparpillé comme une calebasse. Et c'est là où je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas casque dans casque? Est-ce qu'il n'y a pas des casques pacotis, les gens qui sont vendus? Et en réalité, vous le mettez, oui, la police vous laisse passer parce que vous avez le casque. Mais est-ce que, individuellement, ce casque que vous avez mis là, est-ce qu'il vous protège? C'est pour cela, moi je crois que c'est un choix individuel. Vous pouvez mettre une calebasse qui ressemble à un casque, la police vous laisse passer, oui, vous avez réussi votre coup. Mais si vous êtes soucieux, peut-être, de votre santé en cas d'accident, vous, à vous de savoir quel est le type de casque que je dois acheter et quel est le casque que je ne dois pas acheter. Parce que dans ce lot-là, il y a beaucoup de pacotis. Non, ça tombe et puis ça s'éparpille. Mmh. Vous allez voir même depuis cette semaine des morceaux de casque sur nos routes. Alors, et ça, c'est sans tête, ça. C'est-à-dire, c'est le casque seul qui est tombé de lui-même et puis il s'est éparpillé comme un verre ou je ne sais quoi. Et donc, moi, je crois que du moment où on comprendra qu'en réalité, le casque, c'est pour nous protéger, moi, je crois qu'il faut aller dans des boutiques sérieuses, acheter un véritable casque qui pourrait vous protéger en cas d'accident, même si on ne souhaite pas les accidents.
Mmh. Si on doit porter le casque parce que peut-être c'est l'autorité qui l'a exigé, ou du moins s'il y a les policiers dans la circulation, c'est pourquoi nous devons porter cela. Ça veut dire que le travail de pédagogie n'est pas passé.
Oh, est-ce qu'on doit dire que le travail de pédagogie n'est pas passé? C'est une question de conscience personnelle d'abord. Mmh. C'est une question de sa sécurité personnelle. C'est une question de la préservation de sa vie. Et on n'a pas besoin forcément qu'on fasse le gendarme derrière soi pour qu'on sache que la santé a un prix, la vie doit être protégée. Donc, mais avant de revenir à ça, disons en amont, tu as évoqué la réglementation aujourd'hui du prix des casques et tout. Mmh. Hier ou avant-hier, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale a sorti un communiqué qui en faisait allusion. Mais ce que le communiqué a manqué de ressortir, c'est le prix actuel des casques. Mmh. Actuellement, à combien doit-on acheter les casques? Il fallait nous rappeler d'abord le prix auquel on doit acheter les casques avant d'attirer notre attention sur la spéculation pour qu'on puisse dénoncer sur le numéro vert qui a été envoyé dans le communiqué, si j'ai bonne mémoire, le 8585, pour dénoncer les spéculations. On me dit de ne pas spéculer, mais à combien est-ce qu'on vend les casques? On ne sait rien. Donc, il se peut dire, moi, mon casque, il est de qualité, je le vends à 10 000 francs. L'autre peut dire, moi, ma qualité est supérieure, je le vends à 14 000 francs, à 20 000 francs, à 50 000 francs. Quel est le prix réel aujourd'hui? Je crois que c'est l'information la plus importante pour nous amener à réguler, en fait, cette spéculation-là à travers nos dénonciations. Mmh. Donc, si le ministère a l'écoute, c'est le plus urgent à faire aujourd'hui, et vérifier effectivement la qualité de ces casques-là. Mon confrère l'a dit tout à l'heure, quand tu vois certains casques aujourd'hui, tu te demandes si c'est fait pour protéger vraiment ou c'est pour décorer la tête. ça amène à se poser vraiment des questions. Juste par maladresse, le casque glisse sur la moto et puis ça s'écrase complètement. À supposer que tu l'as sur ta tête et que tu fais un accident, mais qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Donc, vérifier dans un premier temps la qualité de ces casques-là. Je ne sais pas s'il faut mettre en place ou il faut voir avec certaines sociétés qui ont le monopole ou pour pouvoir contrôler en fait la qualité de ces casques d'abord en amont et contrôler en même temps la spéculation. Puis si on arrive peut-être à repérer toutes les sociétés qui vendent les casques, la communication peut mieux passer. On peut les sensibiliser également pour corroborer la sensibilisation au niveau des populations également. Donc, prendre toutes ces mesures-là pour que la sensibilisation puisse passer et que ça ait un vrai impact sur la vie des populations comme l'État le souhaite.
Je voudrais appuyer ce que la conseillère venait de dire. On a comme l'impression que le communiqué du ministre du Commerce est cérémonial. C'est-à-dire que ce qu'on voit d'habitude, on sort le communiqué pour qu'on ne dise pas que hier, lorsque c'est arrivé, le ministère n'a rien fait, le gouvernement n'a rien fait. C'est vrai. Après ce communiqué, je pense qu'il faut plafonner. Il faut nous dire aujourd'hui, le Togolais doit acheter le casque à combien? Je crois que c'est très important. Et pour revenir, pour dire aux Togolais, ceux qui nous suivent et à tout Togolais, que la mesure prise par le ministère ou bien les autorités, ce n'est pas pour elles-mêmes. C'est pour protéger nous, population. Ça, c'est la première des choses qu'il faut mettre en tête. C'est vrai que dans l'exercice ou bien dans la mise en œuvre de ces choses, il y a certains policiers, certains agents qui font du zèle un peu. Mais je pense que au-delà de tout, ça va dans notre intérêt. Le fait qu'on nous demande de porter le casque, le fait qu'on nous demande de ne pas brûler les feux tricolores, les feux de signalisation, je pense que ça va dans notre intérêt. Et ce qui s'est passé à Kara, franchement, il faut le dire, c'est un peu de nous. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Il faut que les gens comprennent que le policier ne le fait pas pour soi. On le fait pour se protéger, pour nous protéger. Et la sécurité, la protection devrait en réalité commencer par soi. On ne devait pas venir nous obliger à porter le casque en réalité. Et comme le dit les conseillers par rapport au casque, aujourd'hui, on voit que certains prennent même les casques de ce que les gens portent sur les travaux.
Pour les chantiers.
C'est ce que certains utilisent. Et mais pensant qu'ils font du mal aux policiers, non, ils se font du mal. Voilà ce que je voudrais ajouter.
Abbas, c'est vrai que au-delà du port obligatoire alors de casque, il faut aller aussi vers l'application même d'ailleurs du code de la route sur dans la circulation.
Oui, l'application du code de la route, c'est d'ailleurs même le rôle de ce qu'on appelle opération feu tricolore. Et puis il y a un petit manque de sensibilisation, même un manque de sensibilisation par rapport à ça. On croit que c'est le mieux seul qu'on doit faire dans la capitale, que tout ça doit se passer. Parce que j'ai vu des images, ce qui s'est passé à Skodé, où les usagers de moto ont chassé les forces de sécurité sur la route parce que on leur demande de porter des casques. À Kara, c'était la même chose. Je crois qu'il faut aller plus loin. On ne s'arrête pas dans la capitale pour dire aux gens que le port de casque obligatoire, ce n'est pas pour les beaux yeux de l'autorité. C'est pour votre santé, c'est pour votre sécurité. Et lorsque vous allez tomber, vous allez vous casser la tête parce que quelqu'un qui vous transporte, lui, il est en casque. En cas d'accident, toi, tu n'as pas de casque, c'est que c'est toi qui vas avoir des traumatismes crâniens et ça va s'éclater. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ils croient qu'on veut leur faire du mal. À ce moment, j'ai vu des gens. Quand ils sont, même les conducteurs, lorsqu'ils sont sur la route et qu'ils dévient, maintenant ils finissent, ils dévient dans un coin où il n'y a plus de policiers, eux-mêmes ils enlèvent le casque pour déposer sur la moto. C'est très grave. On ne porte pas le casque parce que le policier est devant moi, mais on porte le casque pour ma sécurité, ma propre sécurité. Et la sensibilisation, comme on est en train de le faire, les policiers sont en train de le faire aujourd'hui sur le terrain, que ça soit continu. Et puis, j'ai l'impression que tu as parlé du code de la route maintenant. J'ai l'impression que cette opération fait tricolore est en train de faire oublier certains aspects de la sécurité. La conduite téléphone au volant, l'ébriété, conduite en état d'ébriété, le non-respect même de certaines petites choses au niveau du code de la route. Donc, il faudrait qu'on fasse appliquer tout cet ensemble-là dans cette opération de feux tricolores, qu'on ne s'arrête pas seulement au respect des feux tricolores ou au respect du port obligatoire du casque, que ça soit un peu généralisé et qu'on voit que tout le monde puisse rentrer dans le...
Fabrice, donc on pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt corser aussi les sanctions pour que des gens puissent prendre conscience alors de ce qui se passe alors dans la circulation.
Oui, les sanctions, oui. La peur du gendarme, tout ça, c'est important, mais moi, je crois qu'il faut vraiment que progressivement, peut-être... Vous savez, à une certaine époque... Les usagers de la route portaient les casques. Hein. Mmh. Et on raconte qu'en 1972, juste après la CAN, à laquelle le Togo avait participé brillamment avec un joueur qui s'appelait Kaolo.
Kaolo, oui.
Alors, après ses exploits, il est revenu et il paraît qu'il a fait un accident à moto, et faute de casque, il était mort à la fleur de l'âge. Et ça avait suscité une certaine colère. Et à partir de ce moment-là, on avait imposé sérieusement le casque. Et ça a pris jusqu'à une certaine époque. Je crois que c'est à partir des années 90 que cette liberté de rouler sans casque-là, et puis avec l'avènement de beaucoup de motos, que les mentalités ont plus ou moins changé. Je crois que c'est à ça qu'il faut en arriver. C'est-à-dire, il faudrait qu'on arrive à une situation. Vous voyez dans d'autres pays, dans les pays développés, même à vélo, les gens ont le casque. Hein. Oui. Même à vélo, les gens, on voit à la télé, quelqu'un prend le vélo, il y a un casque adapté pour cela. Leur moto, ceux qui sont en moto, tous ont le casque. Je crois que c'est à cela qu'il faut arriver un jour pour qu'on évite de sécher les gendarmes et les policiers sous le soleil, pour qu'on marque les gens à la culotte, pour qu'ils portent le casque. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que effectivement nous avons une culture de moto et aujourd'hui les gens expliquent un certain nombre de problèmes. Par exemple, à la rentrée, on se demande si dans une classe de 70 élèves, 50 viennent en moto, c'est où ils vont ranger leur casque pendant le cours et à la fin du cours, ils vont ramasser les casques pour prendre les motos pour rentrer et tout cela. Mais c'est important quand même de comprendre qu'en réalité, ça crée beaucoup de problèmes parce que l'État dépense beaucoup à soigner ce traumatisme crânien lié au manque de casque lorsque les accidents surviennent. Donc, il faut qu'on arrive un jour à ce qu'on s'impose nous-mêmes. On comprenne un peu comme si, je ne sais pas, c'est comme quand il pleut, tu prends ton parapluie, ce n'est pas la police qui te demande de prendre le parapluie. C'est à cela qu'on doit arriver un jour.
Estelle, rapidement.
Oui, en fait, c'est ce que je voulais rappeler. Mmh. Vous savez, le gouvernement ou l'État a beau mis la pression, si nous-mêmes, nous ne prenons pas conscience, ça n'ira pas. Je crois que la décision est beaucoup plus personnelle que la pression extérieure. Quoi. Il faut que nous-mêmes prenions conscience de la situation et ça va aller de soi. Maintenant, peut-être pour une autre alternative à l'État, il faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de motos dans la circulation et ça encombre vraiment la circulation, même par moment. Ce qu'il faut faire peut-être, c'est de développer encore un peu plus les infrastructures routières et développer le transport interurbain, mettre plus les bus en circulation pour permettre peut-être aux populations, comme ça se fait ailleurs sous d'autres cieux, d'avoir les bus au passage à n'importe quel moment où les populations préfèrent beaucoup plus les bus. Ça va diminuer un peu l'achat des motos. Et pourquoi pas ne pas développer la voie ferroviaire là pour qu'il y ait un train en permanence qui relie directement même le sud jusqu'au nord, ça qui facilite en même temps les échanges commerciaux et désengorge un peu les voies également par rapport aux motos.
Merci beaucoup. Nous allons nous transporter au Gabon et puisque je me souviens déjà tout au début alors de cette émission, il y a Fabrice qui saluait les Gabonais et donc c'est à juste titre parce que allez, on est tous au courant alors de cette information du coup d'État hein, qui a lieu ou de la tentative alors de coup d'État qui a lieu au Gabon depuis ce matin, ce mercredi matin. Je vous propose alors d'écouter cet élément avec la complicité surtout de Michel Tomega et on revient.
Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes.
Les mots sont clairs, vous les avez écoutés. Et donc, Abbas, c'est vrai que les Gabonais se sont réveillés ce matin avec deux déclarations. Il y a d'abord la proclamation des résultats, qui annonçait même d'ailleurs Ali Bongo, président, avec 64,27%. Et juste après cette proclamation alors de résultats, c'est des militaires qui interviennent alors sur le Gabon 24 pour donner cette déclaration que nous venons alors d'écouter. Est-ce que vous êtes surpris, Abbas, par rapport à ce qui se passe au Gabon?
Pas tout à fait surpris, parce qu'on a l'impression que ce coup d'État était déjà dans l'armoire. Et on attendait une occasion pour le déclencher.
Et on l'a fait sortir.
Une occasion s'est prêtée. Et c'est arrivé. Parce que quand on voit l'état de santé du président gabonais qui a encore insisté à aller à cette élection, comparativement à ce qui s'est passé en 2016, comment les Gabonais se sont tués, on chassait même les étrangers qui étaient au Gabon, les gens ne voulaient plus vivre cette situation. C'est pour cela que j'ai dit que peut-être le coup d'État était déjà préparé, il faut une détonation pour le faire sortir, et ça c'est arrivé comme ça. Je pense que quand ça s'est passé aujourd'hui, c'est à 4h du matin que les gens ont annoncé les résultats. Quelques heures, une heure de temps après, on annonce le coup d'État. Mmh. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà quelque chose qui s'est tramé que Omar Bongo et Ali Bongo lui-même ne savait pas. C'est lui qui sera surpris qu'on lui a fait coup d'État, parce que pour lui, il est en bonne santé. On a vu comment il faisait sa campagne en train de faire semblant de danser alors que tu n'es pas, il montrait à tout le monde que lui, il est bien en forme et que rien ne peut arriver. Il peut encore conduire le Gabon pendant 4 ou 5 ans. Mais aujourd'hui, l'affaire lui donne un peu tort. Donc, on est en train de suivre l'évolution de la situation, parce qu'on dit que lui et sa famille sont gardés quelque part dans une résidence surveiller pour qu'on voit la situation. Donc, pour le moment, ce que moi j'ai dit par rapport à ces coups d'État qui se font, c'est qu'ils se font sans effusion de sang. Et aujourd'hui, ils ont dit qu'ils sont un comité de transition et de rétablissement des institutions de la République, tout ça, ce qui veut dire que déjà ils sont mis dans la tête une transition. C'est aussi ça que j'ai dit que. Est-ce que ce coup d'État-là n'était pas prémédité depuis, parce que les gens se sont retrouvés en même temps, juste après la proclamation des résultats, on formate un coup d'État et ça s'arrêtera. Ils disent qu'ils vont faire la transition. Donc, on attend de voir comment les choses vont
se faire. Tchabore, on sait dans quelles conditions les élections se sont déroulées le samedi dernier au Gabon, où il n'y a même pas d'observateurs internationaux. Et il n'y a même pas, enfin, il y a des, comment l'appelle-t-on, la coupure d'Internet. Et aussi, il y a des médias internationaux qui ont été refusés, même d'ailleurs, par rapport à l'accès à l'ordre du pays. Et tout cela, est-ce que cela ne présageait pas déjà une situation comme telle?
Je crois que tous les ingrédients étaient réunis par rapport à la situation au Gabon pour que l'on puisse retenir son souffle. Vu ce qui s'est passé, vu ce que vous venez de citer tout à l'heure, je pense que tous les ingrédients étaient réunis. D'abord, à commencer par l'état de santé du président sortant qui, en toute sincérité, n'a pas vu venir, n'a pas voulu quand même obtempérer, n'a pas voulu quand même se dire que bon, par rapport à ma situation, il fallait quand même que je puisse passer la main, je puisse trouver en mon sein, au sein de ma formation, quelqu'un qui puisse me présenter valablement. Donc cette situation, franchement, c'était le déclic, c'est ça qui a quand même c'est ce qui se trouvait dans la tête des gens, et les Gabonais retenaient leur souffle, et au sein de la grande muette, les gens préparaient cela, ils savaient ce qu'il fallait faire, mais ils attendaient. Mais Bongo, lui, il avait toujours en idée comme quoi peut-être il est adulé par la grande muette, il est aimé par son entourage. Maintenant, avec ce qui s'est passé, où il a forcé pour pouvoir se présenter, moi je le dis ainsi, et avec les dispositions qui ont été prises ou les conditions qui ont été mises en place pour que ces élections se déroulent, nous avons vu. Et avec la coupure, c'est comme lui-même, il avait présagé ou bien il sentait qu'il n'allait pas passer. Bon, encore faudrait-il qu'il faut prendre les résultats que les gens ont annoncé sur les pincettes, parce que rien n'est encore officiel, puisque rien n'est encore officiel, les gens se disent, si vous avez vu le communiqué de la France, le communiqué de certaines puissances, ils disent que au moment où les résultats officiels seront connus,
Les résultats officiels ont été annoncés.
Non, je parle du communiqué. Non, je parle du communiqué de certaines puissances. Eux, ils disent qu'au moment où les résultats seront connus, il faudrait que la main soit passée. Donc, ça veut dire que les gens émettent toujours des réserves par rapport à ces résultats qu'on dit officiels. Donc, moi, je pense que tout était réuni. Hein, il faut le dire. Il faut le dire. Et aujourd'hui, moi, je pense que, en principe, Ali Bongo devrait pousser un coup de soulagement. Ça, il faut le dire. Non, franchement, il devait pousser un coup de soulagement parce que, vu le dernier communiqué, je ne sais pas si vous avez suivi, pour les pushistes, si on peut les appeler ainsi, ils ont dit que Ali Bongo est en résidence surveillée et que sa famille est également en résidence surveillée, c'est-à-dire que bien gardé. Et les médecins, il est également avec les médecins vu sa situation de santé. Donc, moi, je pense que ça ne devait pas en principe surprendre. Hein, ça ne devait pas en principe surprendre par rapport à ce qu'il dit. Mais, de façon naturelle, je pense qu'il faut quand même condamner les coups d'État. Ça, il faut revenir là-dessus. Ce n'est pas nécessaire ce que nous sommes en train de voir. Et sur notre continent, ce n'est pas très bien. Ça ne fait pas honneur. Mais, il faut également se pencher sur les causes, ce qui a conduit à ce qu'on en soit là.
Justement, Fabrice, c'est vrai que quand on prend ces coups d'État, déjà, quand on prend l'Afrique de l'Ouest et aussi aujourd'hui l'Afrique centrale avec le Gabon, c'est la garde présidentielle même d'ailleurs qui fait ce coup d'État. Est-ce que vous arrivez à expliquer cela?
Oui, ben, je crois que c'est là où je suis d'accord avec mon confrère Abbas quand il dit qu'on a l'impression que tout était déjà préparé, on attendait le bon moment. Le bon moment, c'est quand? C'est qu'on sait qu'il y a une élection qui est en train de s'organiser. On sait qu'on va dire que c'est Ali Bongo qui va gagner et on sait que quand on le dira, la population ne sera pas contente. Bon, voilà, ils ont entendu, on a dit oui, Ali Bongo est le gagnant et ils disent bon, nous faisons coup d'État. Naturellement, bon, même celui qui était censé peut-être gagner ces élections-là, lui aussi, il est d'accord avec le coup d'État parce que, de toutes les façons, le pouvoir ne lui revenait pas. Ça revenait à Ali Bongo. Donc, il aurait fallu... Moi, là, c'est ce qui m'écœure un peu. Moi, je crois que à un moment donné, c'est là où on voit un peu l'hypocrisie humaine. C'est ce qu'on appelle la révolution du palais. C'est-à-dire que c'est au sein du palais même, les gens se sont organisés. Voilà. Et moi, je sais pas... vu l'état de santé de Ali Bongo, je ne sais pas si à un moment donné au sein de son parti on lui disait écoute Joe, tu peux pas, laisse tomber, est-ce qu'il n'allait pas accepter? Parce qu'il y a aussi parfois des gens qui vous disent non, tiens, on est là, on est derrière toi. Et puis bon, finalement il va et on le lâche à un moment donné où vu son état de santé, je crois que ça va être un peu difficile pour lui. Il peut rien faire. Naturellement, il ne comptait que sur des gens. Quand il disait « je suis encore candidat », sinon si on lui dit « non, laisse tomber, tu n'es plus candidat », qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne pouvait rien. Maintenant, ceux qui l'ont assuré que nous sommes là pour toi, continue, bon, c'est eux maintenant qui le lâchent. Moi, j'ai plutôt l'impression peut-être qu'on... c'est-à-dire que s'il n'allait pas, on voulait peut-être pas que le pouvoir bascule dans l'opposition. On s'est dit « bon, vu la situation, on le met de côté, on garde encore, parce que c'est les mêmes qui ont encouragé Ali Bongo à être candidat et à gagner ses élections. C'est les mêmes qui ont dit que c'est toi qui gagnes. Ce sont les mêmes qui reviennent aujourd'hui pour nous dire que non, on te fait coup d'État. Parce que l'idéal aurait été qu'on dise non, ce ne sont pas les résultats des urnes qui sont proclamés. On a fraudé, il faut recompter. Et on recompte et puis bon, on donne le nom du vrai gagnant. Bon, maintenant, on dit, non, tout ça, là, on ne veut même pas parler. Élection, c'est fini. Tout est annulé. Alors, toutes les institutions dissoutes. Bon, voilà, nous mettons une transition. Bon, moi, je me dis que on se joue un peu du peuple gabonais. Ça les soulage parce que ça fait longtemps qu'ils supportaient Ali Bongo dans son état.
On ne se moque pas de quelqu'un qui est malade, on est d'accord. Mais quand tu es malade et tu n'acceptes pas que tu es malade, parce que je sais que dans toute la constitution du monde, il est écrit quelque part qu'avant d'être président de la République, il faut être apte. Alors, le apte là, je ne sais pas quel médecin gabonais a, je ne sais pas, traité le dossier de santé de Ali Bongo pour nous dire qu'il est apte, alors que tout le monde voit qu'il n'est pas apte. Mais les gens ont dit non, vas-y, tiens, ça peut aller, nous sommes là. Bon, maintenant, il y va, et à 5 heures, on dit, tu as gagné, et puis, on dit, non, on te met de côté, bon.
Les aptitudes dépendent de l'interprétation. Oui.
Et finalement, il y a trop de coups d'État sur notre continent, et ça doit inquiéter.
Oui, c'est ce qu'on a toujours dit. Autant qu'il faut condamner les coups d'État, il faut aussi condamner les causes des coups d'État. C'est un peu ça. Les gens ne se lèvent pas pour faire des coups d'État ex nihilo. Il y a, tout a été peint tout à l'heure, les confrères ont fait les différentes analyses. Déjà, le climat délétère qui régnait à la veille de ces élections au Gabon, on pouvait s'imaginer des choses, même si on ne pouvait pas prédire ce coup d'État, mais on pouvait quand même s'imaginer qu'il y avait une méfiance. Qu'est-ce qui se préparait? Pourquoi la veille des élections, on interdit les observateurs internationaux, les journalistes internationaux ne sont pas accrédités, Internet est coupé, et même jusqu'au lendemain de l'élection, on a ouï dire même que l'opposant était recherché
pour être arrêté. Voilà.
Justement, qu'est-ce qu'on se reprochait? Qu'est-ce qu'on voulait anticiper? On se posait des questions en amont jusqu'à ce que, malheureusement, l'information ne tombe cette nuit. C'est juste déplorable. C'est déplorable. Ça devient tellement récurrent en Afrique qu'il faut vraiment se questionner. Et à un moment, il faut reconnaître vraiment, faire la part des choses et se dire, bon, le niveau auquel je suis arrivé, je recule un peu pour mieux sauter ou je me remets un peu en question pour voir les autres aussi faire pour mieux me préparer et revenir. Ça n'a jamais tué personne. Du coup, plutôt ça te grandit. Tu as de l'expérience, tu as de l'expertise, les gens viennent te consulter. On en a vu ailleurs. Je ne sais pas pourquoi sous nos cieux, on n'arrive pas à respecter les règles de droit que nous sommes nous-mêmes fixées. Et c'est juste déplorable. Aujourd'hui, comme on le dit, c'est la garde présidentielle. Le nouvel homme fort du pays, un certain Clotaire Nguément, qui serait même le cousin de Ali Bongo.
Ali Bongo.
Donc, c'est clair que jusqu'alors, on n'a pas tous les éléments pour faire toutes les analyses. Mais on peut se dire, si nous sommes vraiment dans la logique de contester les résultats de ces élections, c'est la CENI peut-être qui, du Gabon qui devait sortir et se dire bon, les résultats c'est pas ce qui sort des urnes, recomptons les voix et voilà les vrais résultats, que le vrai gagnant accède au pouvoir. Maintenant qu'on sort et qu'on fait un coup d'État, on dépose Ali et que le nouvel homme fort du pays, c'est un cousin d'Ali qui est soutenu en même temps par l'ancienne garde présidentielle, on se dit est-ce que quelque part également on ne voudrait pas la tête de l'opposant là? Et qu'on veut gérer toujours le pays dans le camp d'Ali. La question aussi vaut la peine d'être posée. Sinon, on pouvait juste recompter les voix pour que celui qui a gagné revienne ou reprenne le pouvoir, c'est tout. Maintenant qu'on fait un coup d'État et on dépose Ali et que le cousin vient, bon, c'est toujours le parti, ça peut être aussi une alternative. Bon, on attend de voir l'évolution de l'actualité. Jusque-là, peut-être d'autres nouveaux éléments vont sortir qui vont nous permettre de peaufiner les analyses et croiser les doigts pour la suite. C'est juste déplorable, ces coups d'État.
C'est vrai que les militaires disaient que c'est pour préserver la paix. Hein? C'est pour cela même d'ailleurs que ce coup d'État a été fait. Est-ce que ça veut dire que déjà les conditions dans lesquelles ces élections même ont été organisées présageaient déjà qu'il y aurait alors des violences après les résultats?
Effectivement, ça présageait. J'ai dit tout à l'heure qu'en 2016, à l'élection de Ali Bongo, la même chose s'était produite avec Jean Ping, où la violence est arrivée avec. C'est de façon un peu. On ne peut même pas comparer. C'était trop violent. Et aujourd'hui, la même chose se produisait. Fabrice disait qu'il ne sait pas quel médecin même a confirmé que Ali Bongo est en bonne santé alors qu'on le voyait gravataire. Il était allé faire les analyses. Il est sorti, on l'a présenté avec les médecins pour qu'ils lui ont dit que tiens, il faut aller. Donc ces médecins-là sont complices. On voit que le monsieur il est malade, mais on dit il faut aller aux élections. C'est comme ça que ça s'est passé en Algérie avec
Bouteflika.
Bouteflika. Il faut aller parce qu'il y a des gens quand il va, il part, il les laisse, c'est qu'ils vont perdre leur privilège. Donc on le pousse, vas-y, alors que les autres peuvent le faire. Aujourd'hui, le problème se pose en Afrique, c'est comme ça. Vous voyez que quelqu'un n'est pas normal, mais vous le poussez à aller parce que vos privilèges sont là-bas, vos intérêts sont là-bas. Et voilà ce qui est arrivé. Actuellement, tous ceux-là qui ont soutenu Ali Bongo dans cette histoire, c'est tellement qu'ils seront déjà en fuite. Ils vont quitter le pays parce que on peut les prendre. Et cela fait un développement qui est très intéressant parce qu'on ne veut pas que le pouvoir bascule et que c'est un cousin. On dit souvent que le sorcier ne sort que de ta maison. Le sorcier connaît ce qu'il y a, comment il faut faire pour t'éliminer. Et le général là a fait ce qu'il pouvait faire pour éliminer parce qu'il connaît déjà les secrets de son cousin. Il sait comment les choses se passent. Et c'est pour ça que j'ai dit que le coup d'État était dans l'armoire. Lui, il a préparé de poser. Il faut attendre une petite chose et il a trouvé ça, cette situation-là pour en profiter.
Taboré, c'est vrai que quand vous prenez la communauté internationale qui intervient surtout dans ces histoires de coups d'État et là, on condamne, on dénonce, mais et toujours est-il que pour ce qui concerne la cause même d'ailleurs de ces coups d'État ou du moins de ces situations, il est très important de s'abstenir ou du moins d'arriver à régler le problème au fond avant ou bien avant de venir voir même plutôt ce qui est d'apparent.
Non, je crois que lorsque vous lisez depuis, c'est vrai que c'est encore au frais cette tentative de coup d'État. Nous avons vu les réactions des uns des autres. Les gens sont très mesurés. On a vu certaines puissances sont très mesurées. Bon, c'est vrai, je crois que le Gabon est dans la CEMAC, si je me trompe.
Oui, c'est ça.
Donc, on attendra quand même voir quelle va être la réaction de la CEMAC. Mais toujours est-il que les problèmes, comme vous venez de le dire, il y a des problèmes internes. Ce n'est pas nouveau. Les problèmes sont internes. Le Gabon, depuis ces dernières années, connaît des difficultés, à commencer par la dernière élection où nous avons connu des difficultés avec Jean Ping qui ne voulait pas laisser et finalement qui a laissé aujourd'hui. Donc je pense que en réalité les problèmes internes on devrait les résoudre en interne avant de pouvoir, et j'ai comme l'impression que c'est ce qui n'a pas été fait au niveau du Gabon et qu'on en soit arrivé à ce que nous voyons depuis un peu plus de 24 heures avec ce coup d'État. Donc franchement, nous allons attendre voir avec l'évolution de la situation pour voir qu'est-ce qu'il en sera.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il en sera.
Fabrice, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'hypocrisie au niveau de la communauté internationale dans ces histoires-là? Quand déjà tout au début, allez, on ne dit rien. Quand les problèmes sont là, on ne dit rien. Mais quand il y a coup d'État, on vient condamner.
Oh, bon, ils condamnent parce que c'est des condamnations de principe. Alors maintenant, chaque pays est souverain et chaque pays a ses problèmes. Lorsqu'en interne, vous réglez vos problèmes, bon, vous organisez mal les élections, vous ne payez pas les salaires, qu'est-ce que vous voulez que la France ou bien les États-Unis viennent vous dire? Ils ne vous diront rien. Mais lorsque, bon, vous posez un acte, peut-être qui dans les différents tests internationaux est condamné, les gens feront des condamnations de principe de toutes les façons. C'est pour cela que je dis, ce coup d'État au Gabon là, bon, c'est pas vraiment, on n'appelle pas ça un coup d'État. Hein. Moi, je crois qu'on aurait pu dire, Ali Bongo, ce n'est pas toi, il allait accepter. Donc, on n'avait pas besoin. Moi, je crois qu'on a fait juste un coup d'État pour arracher au peuple son vote. Pour moi, c'est un peu ça, parce que. Si on estime que c'est pas Ali qui a gagné, on l'a proclamé, il faut exiger qu'on recompte. Ali, si on lui dit, bon, on ne veut plus de toi, c'est-à-dire ceux qui le poussent, s'ils lui disent, on ne veut plus de toi, laisse tomber, on lui crée un cadre idéal pour qu'il vive bien et puis il va accepter, puisqu'il sait que lui-même ne peut pas faire grand-chose. Les gens dirigent à sa place, même s'il y a des rencontres internationales, on l'oblige à sortir, à marcher pour dire qu'il tient encore. Tout le monde sait qu'il ne tient pas. Bon, c'est sa femme qui dirige. Bon, et ce coup d'État-là, c'est un coup d'État. Personne, on a entendu, oui, quelques coups de feu. Bon, on aurait pu, on voulait pas dire qu'il a perdu les élections. Bon, maintenant, Mon ami opposant, lui, il devient quoi dans ça? Qu'est-ce qu'il devient dans ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, on dit les élections, on n'en parle plus. Donc, tout ce qui s'est passé samedi, là, on n'en parle plus. L'Assemblée nationale, tout ça, là, on balaie.
Voilà, c'est suspendu. Alors,
tout est suspendu. Bon, et quelqu'un va s'annoncer qu'il a pris le pouvoir. Bon, moi, je crois que dans l'intérêt du Gabon, on aurait pu dire non, proclamer les vrais résultats des urnes. Et si Ali a perdu, on lui signifie qu'il a perdu. Bon, maintenant, on dit qu'on a fait coup d'État pour sauver la paix. Oui, les gens, quand les armes parlent, tout le monde se tait. Mais c'est une paix précaire, parce que le problème qu'on a ici, ça va revenir. Un jour viendra, on réorganisera les élections. Mais est-ce que ces élections seront transparentes? Bon, c'est là la question. Moi, je crois qu'on a dribblé l'opposant. Il n'a rien compris. On l'a bel et bien dribblé. Et bon, voilà.
Estelle?
Oui, en fait, si on s'apesantit un peu sur la déclaration faite par les putschistes, hein, on les attend aussi au tournant. Ils doivent juste s'apesantir sur le rétablissement de l'ordre constitutionnel et puis c'est tout.
Et il y a la Chine qui a commencé. Même d'ailleurs pas exiger
cela. Voilà. Faut pas que après on attend 3 ans, 4 ans, 5 ans de transition avant d'organiser également des élections. Faut pas qu'ils prennent goût au pouvoir. Donc s'il faut, comme ils ont tout annulé, s'il faut réorganiser les élections dans le plus bref délai avec d'autres candidats, je sais pas si l'autre opposant, enfin celui qui était pressenti pour être président avant que les résultats montrent le contraire, on va lui permettre de se représenter encore à ces élections ou s'il doit être exclu, il faut que de nouveaux candidats se représentent pour organiser dans le plus bref délai les élections pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli avec une petite transition peut-être gérée par le président de l'Assemblée nationale comme leur test également le prévoit, qui organise en fait les élections et puis en l'espace peut-être de 6 mois pour que tout redevienne à la normale. Il y a cette crainte-là qu'il ne faut pas mettre de côté.
C'est intéressant le débat, mais nous allons devoir nous arrêter là puisqu'il y a notre temps qui nous talonne. Nous allons donner la parole à nos auditeurs qui vont aussi se prononcer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5 Canal FM. Retour dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler sur le 22 21 33 114, 91 36 63 75 pour se prononcer alors sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Premier auditeur en ligne. Allô.
Allô, bonjour monsieur.
Bonjour monsieur Gado.
Bon, vous savez, moi je crois que c'est la France qui a fait un coup d'état là-bas, il faut précipiter les choses parce que ça ne va pas. Vous savez, Ali Bongo, c'est une honte pour l'Afrique et les Gabonais. On ne peut pas garder un tel monsieur au pouvoir. Quelqu'un qui a dansé avec un bras et puis un pied qui est en bonne santé. Non. Moi ce que je voudrais dire, il faut des élections. Vous allez voir que c'est l'opposant là qui va encore gagner. Parce qu'ils vont faire des élections. C'est l'opposant là qui va gagner. C'est un vrai coup d'état. Merci, bonne journée.
Bonne journée, monsieur Gado. 22 21 33 114. Allô.
Allô.
Bonjour.
Oui, bonjour, chef.
Comment vous allez?
Oui, je vais très bien, chez vous.
C'est Karim?
Non, c'est Sylvain.
Oui, Sylvain.
D'accord.
Allez-y.
Et pour l'histoire de pénurie au niveau des casques là, il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Parce que déjà, quand vous attendez les émigrants, les casques, chaque moto à la commande, c'est 2 casques. Chaque moto vient avec 2 casques. Mais à l'achat, on ne vous remet qu'un seul casque. Donc les magasins sont débordés et puis on veut s'en débarrasser, c'est tout. Il n'y en aura pas de pénurie.
Non,
s'il y a des spéculations au niveau des prix, c'est l'État qui doit régulariser ce système-là. Mais pour le Gabon, c'est un semblant coup d'État, comme vient de le dire l'autre là. Ça, c'est pas coup d'État, ça. C'est un semblant coup d'État. Bon, merci quand même.
Merci beaucoup, Fabrice. Sylvain, j'allais dire. Sylvain, nous n'avons pas parlé quand même de pénurie, hein, de casque. Hein. 22, 21, 33, 74. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Bien.
Le nom, c'est?
Saint-Jo. Appelez-moi Saint-Jo. Je vous rappelle le seul fait parmi les vivants.
Saint-Jo. Oui. Allez-y.
Juste pour appuyer l'idée de madame qui est avec
Oui, Estelle.
Vous ne savez pas que ce qui s'est passé, c'est que même préparé par Ali Bougouni, il sait qu'on va lui gagner. Et si jamais, si on le gagne, après, il serait à la barre. On va le juger. C'est ce qu'il avait fait. Donc, il a préparé ça avec les militaires. Pour dire qu'il a fait, ils ont fait le coup d'état, comme ça, après, en 3 ans, 4 ans, ça arrive à la mission.
C'est quoi, vous voulez dire que c'est Ali Bongo qui a préparé son propre coup d'état, c'est ça?
Oui. Oui. Et lui-même, il a fait ça. Quel médecin, quand je viens que les médecins fassent l'extrêmement, quel médecin qui est fier qu'on l'arrête avec son malade pour le soigner? Et... non. Vous ne verrez pas ce que je passe. Ali Bongo, il a fait ça. Ils ont bien planifié. On l'a arrêté après ça, avec toute sa famille, avec son médecin, il m'a fait quelque part.
Sandio, merci beaucoup. 22-21-33-114.
Allô.
Allô. Bonjour.
Bonjour.
Le nom
plateau.
Oui, bonjour.
C'est Armand.
Armand, allez-y.
Il faut dire que, c'est-à-dire la décision du... des dirigeants, je l'avais dit précédemment, qu'il va falloir qu'on puisse aller progressivement, c'est-à-dire chercher les voies et moyens à mettre à la disposition de la population des casques à un prix acceptable pour le moment. Et surtout mettre aussi un mécanisme pour que les commerçants ne puissent pas utiliser de l'opportunité pour faire flamber les prix. Concernant le Gabon, il fallait un peu s'attendre à cela. Je ne sais pas si, bon, d'après les dernières informations, je pense que dans l'entourage même du président, il y avait des fissures. C'est-à-dire, beaucoup ne... il n'y avait pas l'unanimité derrière Ali Bongo, à ce que je vois. C'est vrai que, pour le moment, la réaction aussi de la France a beaucoup à dire sur ce qui se passe actuellement. Merci.
Merci beaucoup, Armand. 22-21-33-114. Allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, comment vous allez?
Je rends grâce, j'espère que...
Oui, ça va. Le nom, c'est...
C'est Yao.
Yao, vous nous appelez de quel quartier?
De Super Taco.
Super Taco, allez-y.
Je vais intervenir par rapport à l'histoire de casque.
Mm.
Oui, je voulais demander, est-ce que, comment l'appelle-t-on? Est-ce qu'il faut prévenir les accidents ou bien il faut aider les gens à ne pas avoir des blessures au niveau des accidents? Parce que le problème qui se pose, c'est que je vois qu'il y a normalement un travail préliminaire que nos gouvernants devraient faire, qu'ils n'ont pas fait. Je prends par exemple les problèmes des motos, des routes, des feux rouges qui ne travaillent pas, et comment l'appelle-t-on, l'orientation des conducteurs de motos à l'éducation sur la route. Ces choses, normalement, ce sont des préliminaires qu'on doit faire pour pouvoir sensibiliser les gens sur la conduite. Mais j'aurais même préféré qu'on fasse, des visites techniques des motos de 500 francs par semestre pour permettre aux gens de faire visiter leur moto. Et comment voir l'état des clignotants, des rétroviseurs, des freins et tout ça là, et éviter aussi que les feux rouges qui doivent travailler soient en dysfonctionnement avant qu'on le voit, ou aussi l'homologation des casques, parce que il y a aussi ce problème là. Maintenant, moi, mon problème, c'est la question du casque. Est-ce que c'est pour permettre aux gens d'avoir des accidents et de ne pas mourir, ou bien il faut plutôt aller dans le sens où et faire éviter aux gens d'avoir des accidents en leur faisant faire des visites techniques à leur moto. C'est cette question que je voulais
avoir. Ok, merci beaucoup. Yao, 22 21 33 114. Allô,
oui, monsieur, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, Mathieu Davenou.
Mathieu Davenou, allez-y, Mathieu.
Je salue vos collaborateurs.
Oui.
Hey, s'il vous plaît, qui nous dit que quand on gagne à une élection, quand on est proclamé à une élection, c'est qu'effectivement, les élections ont été propres. Nous avons la preuve du Gabon. Donc, dire qu'il ne faut pas faire le coup d'État, il faut passer par les élections. Nous avons une preuve tangible que les élections ne sont pas une source de démocratie dans nos pays. Maintenant, je vais vous permettre que j'aille un peu du côté du Niger.
Oui, oui, allez-y.
Je me demande au jour d'aujourd'hui, s'il vous plaît.
Mm.
Je vais être bref. Si il y a coup d'État au Nigeria aujourd'hui, quels sont les pays qui peuvent aller là-bas s'attaquer aux putschistes? Donc, faut pas voir les petits pays dire que non, celui-ci, on va l'assommer. Mais quand le tour d'un grand va venir, on ne pourra même pas lever son petit doigt.
Mmh. Merci beaucoup, Mathieu. Dernier auditeur, allô?
Allô?
Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez?
Allô?
Oui, nous vous écoutons. Allô?
Allô?
On vous écoute, c'est peut-être il ne nous reçoit pas. Allô?
Allô?
Ah, décidément, il ne nous reçoit pas. 22 21 33 114, 22 21 33 114, 91 36 63 75. Allô?
Oui, allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, s'il vous plaît, c'est qui?
Allô?
Oui.
Didier.
Ah, Didier, allez-y.
Oui. Bon, moi, je voulais demander, comme on dit de dénoncer les spéculations, là, combien coûte le prix du casque, là? Là, quand j'irai payer, on me le vend cher, je puis dire qu'il y a une spéculation. Secondo, j'ai remarqué que aujourd'hui, sur l'analyse de la situation au Gabon, c'est un peu différent de ce que M. Fabrice faisait sur le Niger. Moi, par principe, je suis contre un coup d'État. Si ces militaires-là sont sincères, ils n'ont qu'à remettre le pouvoir à celui qui a gagné de droit à l'opposition. Et puis, on sait qu'ils sont sincères. Ils font une révolution de pareil pour garder le pouvoir, là, moi, je ne suis pas dedans. Que ce soit Bongo, que ce soit ces mêmes militaires, ces mêmes pimes, même Kaba. S'ils savent que c'est l'opposition gagnée, ils n'ont qu'à remettre le pouvoir à l'opposition. Tout est clair. Merci.
Merci beaucoup, Didier. Je pense que Didier, c'est notre dernier auditeur alors, pour le compte de cette émission. Nous revenons ici alors sur le plateau. Abbas, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse, bien évidemment. Et, beaucoup sont revenus sur la situation du Gabon.
Oui, beaucoup sont revenus sur la situation du Gabon parce que c'est ça qui fait l'actualité aussi. Il y a d'abord par rapport au port du casque obligatoire que certains ont relevé. Je pense qu'il faudrait continuer la sensibilisation pour dire aux gens que c'est pour notre propre sécurité qu'on le fait. Maintenant, par rapport au Gabon, on l'a dit ici, si les militaires voulaient, ceux qui ont fait le coup tout à l'heure voulaient qu'on refasse le compte, ce serait intéressant qu'on s'en remette le pouvoir à celui qui a gagné, qui est sorti des urnes, parce qu'on parle de prendre le pouvoir par les urnes.
Mmh.
Si aujourd'hui on vient faire le coup d'État et puis on remet tout à plat, à zéro, on dit bon, nous allons revoir tout. On va revoir tout, ce qui veut dire que l'élection même, on ne tient plus compte de l'élection.
Et ils l'ont annoncé que les élections sont annulées.
Mmh. Ah, ce qui veut dire qu'ils savent là où ils vont, ils savent ce qu'ils font. C'est pour ceux-là qui ne veulent pas refaire le compte. Le comptage des voix. Ça s'est passé ailleurs, on a vu où, après les élections, quand l'opposant revendiquait qu'il a gagné, on a refait le compte, on a remis le pouvoir à celui-là qui a gagné. Aujourd'hui au Gabon, on dit que les élections sont tronquées, les résultats sont tronqués. Si c'est tronqué, vous venez, vous dites que vous annulez tout, ce qui veut dire qu'il n'y a plus, on ne parle plus d'élections, on ne parle plus de l'opposant qui revendique la victoire. Et tout est à zéro. Bon, on attend.
La
transition.
Mmh. Etaboré.
Non, moi je voudrais aborder le problème de la sécurité routière par rapport à ce que les gens ont dit. Il faudrait comprendre qu'il y a deux faits ou bien deux choses dans les décisions qu'a pris le gouvernement.
Le ministère.
D'abord, il y a opération feu tricolore qui est là, et également il y a le port de casque. Et tout ça, je pense que il y a quelqu'un qui l'a dit, nous avons réitéré, nous tous ici sur ce plateau, nous l'avons réitéré. Il va falloir que le gouvernement puisse quand même voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour subventionner ces casques et permettre quand même de plafonner un prix pour que tout le monde sache que c'est comme ça, le prix est à tel. Et maintenant, il faudrait aller. Et que nous revenons dessus pour dire le port de casque, que ce soit le port de casque, que ce soit le respect des feux tricolores, nous le faisons pour nous-mêmes. Ça dit que c'est pour notre propre sécurité. Il y a un auditeur qui a relevé quelque chose de très intéressant par rapport au fait de faire les préliminaires.
C'est Yahoo de Sipetaku.
Oui, voir là où les feux tricolores ne fonctionnent pas, il faut les remettre en ordre. C'est vrai, aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait. Nous avons créé ici, de par le passé, quand vous allez aujourd'hui devant l'OTR, moi je n'en ai pas vu, vous allez voir qu'on a installé même un feu tricolore. Mais par contre, il y a certains lieux où les feux tricolores ne travaillent pas. On ne sait pas ce qui se passe. Quand bien même on a mis de nouveaux feux tricolores, il faut faire des signalisations. Quand vous allez aujourd'hui à l'Oméga, le feu tricolore là, ça fait plus de 2 ans au niveau des rails. Cela ne travaille pas. Et on nous avait fait comprendre que ces 3 feux tricolores appartenaient à 3 communes différentes. Et que chacun se lançait la balle, quoi. Personne ne savait qui devrait en réalité. Ce n'est pas bien. C'est vrai. Il y a eu des préliminaires qui ont été faits, ça a de la sensibilisation. Ça, c'est bon. Certains feux tricolores ont été mis. Je pense qu'il faudrait que nos maires puissent également se mettre à l'œuvre, arranger là où il faut arranger. En ce moment, notre sensibilisation va prendre également.
Fabrice ?
Oui, j'ai écouté un auditeur sembler dire que... Enfin, quand j'analyse un peu ses propos, c'est comme il veut dire qu'on insiste trop sur les casques et qu'en réalité, si on respecte bien le code de la route... On n'aurait pas besoin
justement c'est Yahoo de Sipetaku
de mettre le casque. C'est-à-dire que c'est comme si en demandant aux gens de mettre le casque, bon, quand tu as le casque, tu peux aller tomber, tu n'auras rien. Non, c'est pas comme ça. Je crois que ce qu'on appelle accident, généralement, sémantiquement, c'est ce qui n'est pas prévu. C'est pour cela qu'on appelle ça accident. C'est-à-dire que tu peux être sur un engin, la visite technique est normale, tout est normal, tes feux sont à leur place et autres. Mais un accident, tous les accidents ne sont pas liés forcément à la violation du code de la route. On peut rater un virage, on peut peut-être, je sais pas, par inattention, peut-être cogner quelque chose.
Les freins peuvent lâcher.
Donc ce n'est pas parce qu'on demande aux gens de porter les casques, ce n'est pas pour leur dire, bon, quand tu as le casque, tu as le feu vert. Il y a des gens qui ont le casque, qui font l'accident, ils meurent, non?
Oui.
Ça dépend de comment ton accident a lieu. Mais on dit juste que le casque peut te protéger dans certaines circonstances. Il y en a aussi qui ne mettent pas le casque, qui se relèvent. Mais c'est toujours mieux c'est des mesures préventives. Et donc, on ne peut pas dire d'insister le respect du code de la route. Ça, c'est normal, il faut le respecter. Mais ce n'est pas parce que tu respectes scrupuleusement le code de la route qu'on peut te dire que toi, tu peux être, je ne sais pas, dispensé du casque parce que tu respectes. Non. Parce que les accidents, comme je l'ai dit, c'est des choses qui ne sont pas prévues, mais qui peuvent arriver.
Estelle ?
Non, tout est déjà dit. Hein. Je vais juste rappeler aux auditeurs et à nos populations, en fait, que ces différentes sensibilisations, c'est pour notre bien. Et il faut peut-être attirer l'attention du gouvernement qui doit allier peut-être les mesures préventives et puis les mesures... Enfin, curatives, si on peut les appeler ainsi. Hein. Remettre au goût du jour peut-être le test, l'alcotest, on ne sait jamais. Voir le contrôle rigoureux des feux tricolores, là, le respect du code de la route. Bref, tout ce qui va concourir à la sécurité routière. Maintenant, concomitamment avec ce contrôle de port de casque qui va renforcer en fait toute cette sensibilisation. Maintenant, du côté du Gabon, on a presque tout dit. Hein. Attendons de voir par rapport au communiqué de la junte. L'idéal aurait été de recompter les voix et de rétablir celui qui a remporté les élections dans ses droits. Mais au pire des cas, par rapport à ce qu'ils disent, on se dit peut-être... Le mieux, c'est d'organiser le plus tôt possible les élections, ouvrir ça à tous les candidats et puis rétablir les choses pour que la paix puisse résider dans le pays, comme eux-mêmes le disent.
Nous sommes à la fin. Carton de fin d'émission.
Je n'ai pas de carton.
Abbas ?
Non, le carton, c'est pour rappeler cette voie qui va de Todman à Palimé, Zangera, tout ça là, sur la route de Palimé. Je pense qu'il faudrait qu'on passe les lampadaires.
Les lampadaires.
Puisque hier, ça a causé un accident au niveau de Doganto,
où les balayeuses, on a déjà dit que celles-là qui balayent doivent avoir une heure. Maintenant, elle balaye aux environs de 23 heures. Un monsieur est filé à toute allure. Il a surpris leur borne là qu'ils ont mis. Il a freiné brutalement. Il a allé cogner une moto. Et lui-même, il a fait tourner. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort d'homme. Je pense qu'il faudrait revoir les lampadaires là pour qu'on puisse les
allumer. Il y a aussi des lampadaires qui ne s'allument même pas.
On ne les allume même pas.
Oui, moi c'est vrai. Le carton vert, et je l'ai toujours dit, par rapport pour les FDS. Actuellement, nous sommes là, on vit en paix. Et puis, il y a certains qui sont aujourd'hui dans la brousse.
Ils sont au front.
Sécurité, ils sont au front. Franchement, il faut qu'on ait une pensée pour ces FDS-là. Et à nos frères également du Grand Nord, quand même, qui vit une situation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sent plus, mais quand même, il faut qu'on ait une pensée.
Merci beaucoup, Fabrice. Carton de fin d'émission.
Oui, moi, j'ai un carton jaune pour les journées noires de la COSA, le club Asco de Cara, pour son score 7-0. C'est pas vraiment honorable. Voilà. On ne demande pas toujours de gagner, mais il y a quand même des défaites honorables. Et donc, je crois que cette défaite-là n'honore vraiment pas le football togolais. Au niveau, ils peuvent perdre un match, mais pas de la sorte. Donc, carton jaune.
C'est un accident.
Le parcours. Merci à vous tous, chers confrères. Abbas, merci à toi. Merci, Tabouret. Merci, Fabrice. Merci, Estelle. Merci à vous qui nous avez suivis aussi. Merci à Michel et Géraud Akoutia. On se retrouve la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, prenez soin de vous. Appelez-moi Pascal Lossou.